le magazine des Nations Unies.
L'UNICEF, au secours des enfants orphelins ou séparés à la suite de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Ils sont 1400 enfants à avoir bénéficié de l'assistance du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et ses partenaires. Les détails à suivre dans cette édition. Santé encore, il n'y a pas qu'Ebola. La République démocratique du Congo est également confrontée à plusieurs autres épidémies qui persistent, à l'instar du choléra. La vaccination est l'une des stratégies de riposte à laquelle recourt l'OMS dans son appui au gouvernement. Dans cette édition, un expert de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Gervais Folfasque, fera le point de cette épidémie comme un autre invité. Enfin, le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, impliqué avec plusieurs autres partenaires dans un vaste programme de rattrapage d'enregistrement des enfants à l'état civil à travers des écoles ciblées. 600 000 écoliers et leurs frères et sœurs en famille seront concernés par cette opération, à l'issue de laquelle 2 400 000 actes de naissance devront être délivrés. Voilà tout pour les titres, les détails dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Nous disions 1400 enfants orphelins séparés de leurs parents à la suite de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays sont bénéficiaires d'une assistance du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et ses partenaires. Honoré Missenga, bonjour. Vous avez un communiqué de presse de l'UNICEF entre vos mains. Alors en quoi consiste cette assistance ?
Bonjour Tina Salama. L'assistance de l'UNICEF et ses partenaires aux enfants orphelins ou séparés de leurs parents isolés dans un centre de traitement d'Ebola consiste notamment à leur prise en charge à travers des crèches. À ce jour, deux crèches directement gérées par l'UNICEF et ses partenaires ont été ouvertes à Butembo, au Nord Kivu, affirme le communiqué de presse de l'agence onusienne. La première l'a été depuis novembre 2018. Les survivants d'Ebola, préalablement immunisés contre la maladie, s'y occupent des besoins spécifiques des nourrissons et d'autres jeunes enfants. Une deuxième crèche a vu le jour, toujours à Butembo il y a 3 semaines, alors que l'UNICEF annonce dans le même communiqué l'ouverture d'une troisième crèche dans les prochains jours à Katwa, un autre foyer de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. L'autre forme d'assistance, Tina, concerne les orphelins en âge scolaire pour lesquels le Fonds des Nations Unies pour l'enfance fournit des kits et une contribution financière pour le paiement de leurs frais scolaires. Par ailleurs, l'UNICEF dit avoir formé, en collaboration avec le gouvernement, 734 psychologues et assistants psychosociaux pour aider les familles et les enfants touchés.
Merci Honoré Missenga. Voilà les droits de l'enfant avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Nous l'avions également en titre, 2 400 000 actes de naissance seront livrés à 600 000 élèves de la maternelle et du primaire, ainsi qu'à leurs frères et sœurs à travers le pays, dans le cadre d'appui au processus des réformes du système des faits d'état civil et de production des statistiques amorcées depuis 2016 par le gouvernement congolais. Les détails, toujours avec vous, Honoré Missenga, Kalala.
C'est un projet financé par la Banque mondiale et conduit par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en partenariat avec d'autres structures comme Caritas Congo. Selon UNFPA qui livre cette nouvelle, le projet va commencer par une phase pilote axée sur la ville de Kinshasa où 100 000 élèves devront recevoir avec éventuellement leurs frères et sœurs au total 400 000 actes de naissance. Dans cette opération, le Fonds des Nations Unies pour la population conduit de mars-avril 2019 la collecte des données en vue de l'élaboration de la cartographie du système d'état civil et de la mise en place d'une base de données sur les enfants bénéficiaires d'actes de naissance avant leur enregistrement prévu d'avril à juin prochain. Les ministères de l'EPSP, de l'Intérieur et de la Justice sont impliqués dans ce projet. L'exécution de la phase pilote à Kinshasa a déjà connu plusieurs rencontres d'information et de formation des acteurs impliqués. La prochaine étape de ces rencontres concernera les chefs d'établissement scolaire ciblés et les présidents des comités ou associations des parents d'élèves inscrits dans ces écoles, souligne encore UNFPA.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Notre magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que lui avait accordé Maître Soudi Elimasi Kimputu, coordonnateur national du Centre Congolais de lutte anti-mine, CCLAM. C'était en marge de la Journée internationale de lutte anti-mine célébrée le 4 avril. Maître Soudi s'était entretenu avec Honoré Missenga, Kalala.
Maître Soudi Elimasi Kimputu, bonjour.
Bonjour.
Le 4 avril de chaque année, c'est la journée internationale de sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Quel est l'intérêt de cette journée en ce qui concerne la RDC?
Pour la République démocratique du Congo, le 4 avril de chaque année, de la même manière qu'on célèbre la journée sur le plan international, en RDC, nous voudrons utiliser principalement les mêmes thématiques pour rappeler, que ce soit la communauté nationale et internationale, que les mines sont une réalité dans notre pays et qu'il faudra que les gens s'en rappellent et que la lutte puisse continuer efficacement dans tous ces piliers. Et donc, une journée comme celle du 4 avril, on se souvient facilement aux victimes et on rappelle à toutes les communautés nationales et internationales que ces victimes innocentes ont besoin de l'assistance. Mais aussi, c'est une journée de plaidoyer à travers laquelle nous saisissons toutes les instances du pays et du niveau international pour leur dire que ce fléau est une réalité et que nous devons ensemble nous retrouver dans une sorte de coalition pour que nous puissions mettre fin à ces phénomènes dans notre pays.
Les mines antipersonnelles, une réalité en RDC, vous l'avez dit, et le pays a mis en place un plan stratégique national de lutte anti-mines validé en novembre 2017. Pouvez-vous nous en rappeler les principaux axes et les objectifs?
Notre plan stratégique national mis en place prévoit un certain nombre d'axes stratégiques, principalement trois. Le premier axe parle sur la gestion de la menace explosive. Cet axe a pour objectif à ce que le programme national puisse finaliser l'enquête nationale de contamination qui n'avait pas été réalisée en 2012-2013 dans les territoires de Dungu dans la province du Haut-Uele et de Aru dans la province de l'Ituri. Et comme autre objectif de cet axe, il faudra que nous puissions, dans la mesure du possible, déminer la République démocratique du Congo, tous les espaces pollués par les mines antipersonnelles d'ici à la date butoir qui nous a été fixée par les États parties, 1er janvier 2021. Le deuxième axe stratégique parle de la gestion de la contamination résiduelle. Et l'objectif principal fixé à cet axe, c'est le renforcement de capacités au niveau national pour permettre à ce que les unités, les équipes de démineurs congolais, étatiques et non étatiques, soient en mesure de prendre en charge toute contamination résiduelle qui pourra survenir à l'issue de la déclaration de la RDC libre des mines. Le troisième axe, c'est le plaidoyer. Il vise ici principalement le cadre légal et tout ce qu'il y a comme question de communication. Et là, comme objectif stratégique, c'est de ramener notre gouvernement à ratifier toutes les autres conventions sur la lutte anti-mine, parce que nous avions déjà ratifié la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, mais la lutte anti-mine inclut la convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions, que nous avons déjà signée et que nous n'avons pas encore ratifiée. La lutte anti-mine inclut aussi la convention sur certaines armes classiques avec ces 5 protocoles additionnels, et particulièrement le cas qui est celui de la RDC, les 2 protocoles additionnels spécifiques qui sont le protocole démodifié et le protocole 5 qui parle des restes explosifs de guerre.
Quelle est la cartographie aujourd'hui des zones affectées par les mines antipersonnelles?
Les zones qui sont identifiées aujourd'hui sont principalement localisées dans l'espace de l'ancienne province de l'Équateur, le nord et le sud d'Ubangi, la Chuapa. Nous trouvons une partie de la province de la Chopo, une partie de la province de l'Ituri et de Bazuele. Le nord Maniema, à la frontière avec la province de la Chopo, est affecté. Une partie de la province du Tanganyika, le Haut Katanga aussi, à la frontière avec l'Angola. Le nord Kivu, le sud Kivu sont des provinces qui sont affectées du fait que ce sont des provinces qui ont été exposées aux conflits armés depuis toutes ces décennies que le pays est en train de connaître ces phénomènes.
Rendre le pays libre des mines antipersonnelles d'ici 2021, pensez-vous que la RDC pourra atteindre cet objectif et remplir ses obligations vis-à-vis de la convention d'Ottawa dont elle est signataire?
La RDC est plus que déterminée pour éradiquer ces phénomènes. Mais nous avons un problème sérieux de financement. Le financement dans la lutte anti-mine est en train de décroître. Et nous en appelons à travers votre micro à tous les partenaires nationaux et internationaux qu'ils puissent accompagner la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la mendicité, parce que la convention exige à ce que les autres États et les autres partenaires étatiques et non étatiques puissent apporter leur contribution à la lutte contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. Alors le problème qui est aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, si les moyens sollicités sont disponibles, nous pouvons terminer cette problématique avant janvier 2021. La République a suffisamment de compétences pour le faire, mais il faudra absolument qu'il y ait les moyens sollicités pour que le pays puisse arriver à l'objectif. Et nous pouvons terminer même avant la fin de cette année si les moyens sont disponibilisés.
Oui, parmi les partenaires extérieurs, nous avons notamment le gouvernement japonais et la MONUSCO. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ces partenaires?
Merci beaucoup. Le gouvernement japonais nous a toujours accompagnés dans cette lutte. C'est parmi les plus grands et anciens bailleurs de la République démocratique du Congo. Nous voulons tout simplement les appeler à jeter encore un coup d'œil sur les appuis au niveau de notre programme pour que nous puissions arriver à l'objectif. Et j'ai saisi en même temps cette occasion pour saluer le gouvernement de la Corée du Sud qui a pris les dispositions d'accompagner notre programme cette année à travers les services de lutte antimine des Nations Unies et qu'aujourd'hui, au niveau des opérations et même des organisations de l'éducation au risque des mines, nous pouvons mettre des projets en marche.
Et la MONUSCO?
La MONUSCO qui est le partenaire traditionnel. D'abord, je la salue et que, au nom du gouvernement de la République dans les domaines de la lutte antimine que je représente ici, je voudrais vraiment réitérer nos remerciements et que nous pensons que la MONUSCO ne devra pas baisser la garde et devra nous accompagner toujours pour que nous puissions ensemble, parce qu'ils ont aussi l'objectif de sécuriser la République démocratique du Congo, que nous puissions ensemble arriver à cet objectif d'ici au 1er janvier 2021.
Maître Soudi Alimasi Kimpoutou, merci beaucoup.
Découvrons cette page des nouvelles en plus bref par la visite effectuée en RDC du 14 au 17 avril 2019. Messieurs Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Pendant son séjour dans la capitale congolaise, le programme de Messieurs Xia prévoit notamment une rencontre avec Madame Lela Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Au terme de sa visite, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs traversera le Poul Malebo pour Brazzaville en République du Congo. Protection des civils, nous sommes dans la plaine de la Ruzizi à Uvira au sud Kivu où une réunion d'amitié dénommée Urafiki s'est tenue mardi dernier à Sangé entre le bataillon pakistanais de la MONUSCO et la police nationale congolaise PNC. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux deux parties d'évaluer les tendances en matière de protection des civils et de renforcer leur collaboration dans cette contrée. La partie onusienne a profité de cette opportunité pour insister sur la discipline dont devront faire montre les éléments de la PNC, souvent accusés de harceler la population. Les deux parties ont par ailleurs convenu de partager désormais en temps utile toutes les informations relatives à la protection des civils en vue d'y apporter éventuellement des réponses rapides et coordonnées. Enfin, l'obésité se mondialise. C'est une alerte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les taux de surpoids et d'obésité ne cessent de croître dans le monde entier, a déclaré le directeur général de cette institution, José Graciano da Silva, lundi dernier, à l'ouverture de la 161e session du Conseil de la FAO à Rome. Alors que la faim est circonscrite à des zones spécifiques, l'obésité est partout. En fait, nous assistons à la mondialisation de l'obésité, a ajouté José Graciano da Silva. Pour ce dernier, la FAO ne va plus seulement se concentrer sur la lutte contre la faim. Cette lutte appelle aussi à l'éradication de toutes les formes de malnutrition.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La vaccination contre le choléra est une mesure provisoire. Pour éradiquer l'épidémie de cette maladie, il faut de l'eau potable et un milieu assaini. Notre invité de ce dimanche, c'est le docteur Gervais Folfac. Il est chargé des urgences à l'OMS RDC à Kinshasa. C'est justement pour faire le point de la problématique du choléra en République démocratique du Congo. Suivez plutôt l'entretien du médecin qu'il a accordé à Honoré Missenga Kalala.
Docteur Gervais Folfac, bonjour.
Bonjour.
On parle plus de l'épidémie d'Ebola, mais la RDC est également confrontée, même bien avant, à l'épidémie de choléra qui a fait l'année dernière plus de 900 décès sur plus de 25 000 cas répertoriés. Quel est l'état des lieux de cette épidémie à ce jour?
Je dois dire que, en plus de l'épidémie d'Ebola, la RDC fait face à beaucoup d'autres épidémies, parmi lesquelles le choléra, la poliomyélite, la rougeole, le monkeypox, la fièvre jaune, la peste et j'en passe. Mais en ce qui concerne le choléra, depuis le début de l'année, nous avons enregistré environ 7500 cas suspects de choléra, 191 décès, soit une létalité d'environ 2,6%, ce qui est énorme parce qu'en principe, on doit avoir une létalité, en fait, c'est-à-dire le taux de décès doit être inférieur à 1%. Il faut quand même noter que toute l'année passée, en 2018, comme vous l'avez mentionné, on a eu près de 30 000 cas et environ 1040 décès pendant toute l'année 2018. En 2017, c'était plus que ça. En 2018, je vois qu'on a pu un peu contenir la flambée qu'on avait eue en 2017. Particulièrement, la flambée de 2018 est beaucoup plus concentrée dans les provinces de l'Est, qui sont endémiques au choléra, il faut le dire. Il s'agit du Nord Kivu, du Tanganyika et du Sud Kivu et du Haut-Katanga. Particulièrement, au Haut-Katanga, on a la ville de Lubumbashi qui est fortement atteinte par une grosse épidémie de choléra pour laquelle les acteurs du ministère de la Santé et les partenaires sont en train de répondre. Grâce aux actions des partenaires, je dois dire qu'on a pu éviter l'épidémie jusqu'à présent dans la ville de Kinshasa. Parce qu'en 2017, on a eu une très forte épidémie dans la ville de Kinshasa. Et depuis l'année passée jusqu'à présent, les actions de prévention ont permis d'éviter jusque-là l'épidémie dans la ville de Kinshasa.
Alors, mais les autres provinces?
Je dois dire qu'en 2018, on a eu une très grosse épidémie dans l'espace Kasaï. Quand je parle de l'espace Kasaï, c'est le Kasaï oriental, c'est le Kasaï, c'est le Sankuru, l'Omami. Heureusement, avec l'appui des partenaires et du ministère de la Santé, c'est en décembre qu'on a pu arrêter cette grosse flambée. Et je dois dire que pour arrêter, on est obligé d'utiliser la vaccination contre le choléra, qui est l'une des stratégies de lutte qu'on utilise lorsqu'on n'a pas pu mettre en œuvre les autres stratégies que vous connaissez ou bien qu'on va rappeler.
Oui, par rapport à cet axe de riposte, donc la campagne de vaccination, l'OMS avait ciblé 6 millions de personnes.
Oui, on a fait un plan de vaccination contre le choléra avec le ministère de la Santé et les autres partenaires qui a été validé. Oui, ce plan réellement prévoyait de vacciner 6 millions de personnes jusqu'en 2020. C'est-à-dire jusqu'en avril 2020. En fait, ce plan prévoyait réellement de commencer dans l'espace Kasaï parce que c'est là-bas qu'on avait la plus grosse flambée en 2018. Donc là-bas, nous avons vacciné 1,224,000 personnes âgées de plus d'un an. En fait, c'est dans les quatre provinces dont je viens de citer, le Kasaï, le Kasaï oriental, le Mami et le Sankuru. Ça, c'était en décembre 2018. Et cette vaccination a vraiment permis de contrôler l'épidémie dans cet espace Kasaï jusqu'à présent. Je dois dire qu'en principe, la vaccination, ce n'est qu'une stratégie qui vient en complément aux autres stratégies. En matière de choléra, ce n'est pas la vaccination qu'il faut faire en premier.
La campagne prévoit d'autres provinces?
La vaccination contre le choléra se fait en deux doses. On a fait la première dose dans l'espace Kasaï, la deuxième dose doit être faite bientôt, les vaccins sont déjà disponibles. Mais on a d'autres flambées, comme je vous ai dit, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et puis dans le Nord Kivu. Alors dans le Nord Kivu, malheureusement, on a même des zones de santé qui sont affectées par la maladie à virus Ebola, qui sont en même temps affectées par l'épidémie de choléra. Donc nous avons discuté avec le ministère de la Santé et on est tombé d'accord de vacciner dans le Haut-Katanga et puis dans le Nord Kivu. Donc les préparatifs sont en cours pour pouvoir vacciner dans ces deux provinces, surtout au niveau de la ville de Lubumbashi et puis dans les zones en épidémie de la province du Nord Kivu.
Est-ce qu'il y a un calendrier précis par rapport à ça?
Disons que les préparatifs sont déjà bien avancés. Nous avons envoyé la requête au niveau de l'ICG. On attend l'approbation. Lorsqu'on aura l'approbation, je crois que peut-être d'ici le mois de mai, ça, on pourra mettre en œuvre cette vaccination.
Tant que les populations n'auront pas d'eau potable, tant que les populations n'auront pas accès à l'assainissement, il sera difficile d'endiguer le choléra en RDC. Ce sont vos propos de l'année passée. Comment vous justifiez ça?
Merci beaucoup. Non, je crois que ces propos sont encore d'actualité. Le choléra, peut-être je ne l'ai pas rappelé, mais c'est une maladie diarrhéique qui se contracte généralement par la consommation de l'eau souillée, contaminée par une bactérie qu'on appelle le Vibrio cholerae. Vous comprenez bien que pour lutter contre cette maladie, il faut une approche pluridisciplinaire. En même temps, tant qu'on traite des malades, il faut résoudre le problème d'eau, le problème d'hygiène, le problème d'assainissement. Et même aussi, il faut communiquer avec les populations pour qu'ils changent de comportement, pour qu'ils adoptent des comportements à moins de risques. Donc c'est ça en principe la complexité du choléra. C'est pas une maladie vraiment du seul domaine de la santé, mais vraiment c'est une maladie dans laquelle plusieurs secteurs doivent s'associer pour pouvoir la combattre. Donc on a constaté dans beaucoup de pays qu'en améliorant les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et des mesures d'hygiène, qu'on a pu maîtriser et contrôler, éliminer le choléra. Ça, c'est vérifié. Donc, je crois que le grand problème de la RDC, c'est ça. Il faut que toutes ces mesures-là soient mises en œuvre ensemble pour pouvoir contrôler l'épidémie de choléra. Comme je l'ai dit, vraiment, il faut de l'eau potable. Il faut améliorer l'environnement du milieu, éviter des pratiques telles que la défécation à l'air libre. Ça, c'est vraiment important. Le vaccin, comme je l'ai dit, cela pour lorsqu'on ne peut pas réunir toutes ces conditions-là. Lorsqu'on ne peut pas avoir de l'eau potable, lorsqu'on ne peut pas mettre en place des mesures d'assainissement, lorsque les populations n'adoptent pas des comportements à moins de risques, en plus de soigner les malades, de les détecter rapidement, de les soigner, en plus de ça, il faut vacciner pour éviter que les gens ne meurent d'une maladie qui peut être facilement évitée.
Donc, dans tous les cas, la vaccination n'est pas la solution définitive.
Non, la vaccination n'est qu'une solution provisoire. On vaccine en attendant que les mesures durables soient mises en place. Les mesures durables en termes d'approvisionnement en eau potable, en termes d'assainissement et en termes de changement de comportement de la population. Je crois que les autorités sont conscientes, mais je profite aussi pour lancer l'appel aux autorités municipales aussi, parce que l'approvisionnement en eau de la ville revient un peu à la commune, aux autorités locales. Les autorités nationales, il faut vraiment qu'on essaye de renforcer l'approvisionnement en eau dans les différents territoires, dans les différentes provinces, dans les différentes villes et villages de la RDC.
Oui, mais en attendant, l'OMS fait ce qu'elle peut faire à côté du gouvernement.
Oui, bien sûr. En attendant, l'OMS appuie le gouvernement en mettant en œuvre des actions telles que la détection d'abord rapide des cas, parce qu'il faut détecter à temps pour pouvoir soigner le malade. Des actions aussi telles que la chloration de l'eau, parce qu'il y a des villes comme la ville de Tanganyika, où les gens se ravitaillent dans le lac Tanganyika qui est pollué, qui est infecté. Alors, ce que nous on fait, on essaie de mettre des points de chloration autour du lac pour que ceux qui viennent puiser de l'eau, au moins qu'on mette du chlore pour tuer les germes du choléra et ça leur permet d'éviter d'attraper la maladie. Donc ça, c'est ce que nous, on essaye de faire. On sensibilise la communauté pour les changements de comportement. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire en attendant vraiment que des mesures durables soient mises en œuvre par le gouvernement et ses partenaires.
Docteur Gervais Folifac, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et notre nouvelle de province nous emmène à Goma, au Nord Kivu, où une cinquantaine d'officiers casques bleus de la MONUSCO ont reçu lundi dernier des médailles en reconnaissance des services rendus pour la paix en RDC. La cérémonie officielle de remise de ces médailles a été présidée par le commandant des forces de la mission onusienne, le général Elias Rodriguez. Celui-ci s'est exprimé au sujet de la situation dans l'est du pays et le Kasaï.
Pour apporter la sécurité au peuple de DRC, il y a un travail qui demande beaucoup de challenges pour apporter la stabilité dans ce pays. Mais on a la confiance que le travail que font la force de la MONUSCO dans ce pays, on va apporter la paix. Et pour cela, on fait confiance au travail en collaboration avec nos partenaires, les FARDC et les PNC. La première priorité reste l'est du pays. On peut dire que la plupart la plupart des parties de la DRC est un peu stable. Mais la situation de l'est du pays et dans les Kasaï, il mérite notre attention. Mais la nouvelle résolution va donner la nouvelle structure, le nouveau pouvoir pour mettre en place notre force pour apporter la paix dans ce pays.
Dans son mot de circonstance, le commandant des forces de la MONUSCO a souligné que la communauté internationale, particulièrement la MONUSCO et le gouvernement congolais, sont reconnaissants du travail de tous les casques bleus et leur apport à la sécurisation de la RDC.
Magazine des Nations Unies.
Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Christophe Babunga, journaliste à l'agence congolaise de presse. Ma question s'adresse au bureau conjoint de droits de l'homme. Vous avez dit que la province du Nord Kivu est à tête de violations de droits humains. Je voulais savoir comment le bureau conjoint, en appui au gouvernement congolais, doit réduire, si pas limiter, les violations qui se font à Goma, dans le Nord Kivu en particulier et dans d'autres provinces.
Merci beaucoup. C'est une question qui revient aussi très très souvent. Je dois dire que réduire l'activité des groupes armés, c'est effectivement les opérations militaires. Donc cela va de soi. Nous ne nous opposons pas à ce que des opérations militaires soient initiées pour neutraliser les groupes armés. Parce qu'il y va de la protection des civils, également de leur intégrité physique. Ce que nous demandons, c'est que ces opérations soient plus ou moins conformes à ce qui est attendu en termes de respect des droits humains et respect du droit international humanitaire. C'est ça la grosse difficulté que nous avons. Je pense pense qu'aujourd'hui, il est possible de réduire l'activité des groupes armés si réellement des efforts soutenus sont menés en vue réellement de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de groupes armés. Aujourd'hui, j'ai cité le groupe NDC Rénové qui aujourd'hui est en train d'étendre sa zone d'influence sous les complaisants quelquefois de certains éléments des forces de défense et de sécurité. Donc, ce sont ces types de situations, je pense, sur lesquelles il faut travailler. Nous sommes engagés avec les autorités congolaises, en particulier la hiérarchie militaire, que nous rencontrons très souvent pour discuter des problèmes que nous notons sur le terrain en vue de pouvoir y apporter des solutions. Je pense qu'eux-mêmes, la hiérarchie, elle a à cœur de réellement faire en sorte que les opérations puissent être menées dans les règles de l'art, effectivement, et que ces allégations-là concernant l'utilisation de certains groupes armés comme des supplétifs des FARDC qui en profitent pour étendre leur zone d'influence, que tous ces faits-là soient réellement éradiqués et qu'on puisse retrouver une province qui aujourd'hui devrait être un havre de paix. Je laisse de côté toutes les causes structurelles du conflit, les questions d'accès aux ressources, sur lesquelles aussi il faudra se pencher. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je suis Belinda Bosuma, mariée, mère d'un petit garçon pour le moment, qui s'appelle Shemaya Kabea. Je suis journaliste de formation de l'Institut facultaire des sciences de la formation et de la communication, IFASIC, option journalisme politique extérieur. Je suis à la MONUSCO depuis, je dirais, 2005 pour les stages et 2006 lors des élections. J'ai signé finalement un contrat en 2009 avec la Fondation Hirondelle à l'époque et puis 2011 avec la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Et au sein de la MONUSCO, je suis donc journaliste à Radio Capi. Si je peux résumer ma journée de travail, je dirais que ça dépend des shifts que j'ai fait, c'est-à-dire il y a la matinale qui commence de 4h jusqu'à 9h et puis la journée, nous avons les journaux de midi et de 15h. Sans compter les bulletins d'information, donc entre 8h et 15h. Et puis, il y a aussi le shift du soir qui commence à 14h jusqu'à 20h. Bon, en général, en arrivant, que ce soit le matin ou l'après-midi, on assiste d'abord à la conférence de rédaction. C'est là où on prépare les éléments à diffuser dans les journaux. On propose des sujets de reportage avec des angles bien précis. Et puis, les reporters vont sur terrain, ils ramènent les éléments. En tant que présentatrice, nous recevons ces lancements après avoir élaboré un conducteur en conférence de rédaction, bien sûr. Et puis, je retravaille les textes à ma manière, c'est-à-dire selon mon style, voilà, pour rendre cela fluide pour nos auditeurs aussi. Voilà un peu comment je peux décrire ma journée de travail. Concernant mon parcours professionnel, je dirais que avant la MONUSCO, je n'ai fait qu'un stage à la chaîne de télévision Tropicana Télévision à l'époque, qui est devenue Numérica, avec le chef Kibambi Chintoa. Donc avant la MONUSCO, je n'ai été que là. Je peux dire que tout mon parcours professionnel, c'est ici, à la MONUSCO. Alors, comment gérer mon temps libre? Mon temps libre, j'aime bien le passer avec mon fils. Et je vous assure que c'est différent, hein, comme quand j'étais célibataire et sans enfant. Maintenant, en tout cas, je préfère passer mon temps libre avec mon fils, soit à l'église ou à la maison. Il n'a que 3 ans à peu près, mais il raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu à l'école des dimanches, en ses propres termes. Parfois même on se dispute la télécommande à la maison. Lui, il veut regarder ses dessins animés et moi, mes programmes tels que les informations, les séries télévisées. Voilà un peu comment je passe mon temps libre. Mes préférences, j'aime bien la musique gospel. Je suis aussi nostalgique, hein, les anciens succès, de temps en temps, j'y recours. Bon, côté nourriture, j'aime beaucoup le pondu et l'imbondo, avec du poisson frais et le lituma. C'est vraiment mon plat préféré. Voilà, Et puis, mes projets d'avenir, bon, je ne vais pas entrer en détail, mais j'aimerais former ma propre entreprise. Voilà un peu après la MONUSCO, ce que je voudrais bien faire. Pour terminer, un coucou aux auditeurs. Je vous dis, en tout cas, chers auditeurs de la fréquence de la paix, merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. La confiance, la fidélité, en tout cas, je vous en suis reconnaissante. Parce que ce que nous faisons, c'est pour vous. C'est pour vous que nous le faisons. Quand je suis devant ce micro, je pense d'abord à vous. Quand je prépare mes journaux ou mes interventions à l'antenne, je pense d'abord à ceux qui vont me suivre. Comment rendre ces informations fluides s'il y a des termes compliqués, par exemple. Comment faire comprendre aux auditeurs ce que je veux transmettre comme information. C'est ça mon souci, en tout cas. Je vous remercie de continuer à nous rester fidèles et que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À noter dans Bocalpin, le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Et le 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Et voilà, c'est la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en monde par Alain Goy. Honoré Mussenga Kalala a été au reportage, à la réalisation et à la coordination sous la supervision de Martin Sibujangwe. On vous souhaite de passer des très bons moments en compagnie de Radio Capi. À bientôt. Ciao.